Ce matin, nous allons poursuivre notre série d'études sur la foi de Jésus. Et ce que nous allons voir en ce matin est la dernière partie de cette série de quatre études. Et cette dernière partie est tout aussi importante que les trois précédentes. Et mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous inviterai à demander avec moi à Dieu de nous accorder ton esprit pour comprendre sa parole. Tendre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes d'avoir ta parole. Merci. Car tu nous as fait la promesse par Jésus de nous conduire dans toute la vérité. Et pour cela, nous avons besoin de l'esprit de la vérité. Et l'esprit de la vérité est l'esprit de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci alors de bien vouloir nous accorder l'esprit de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin d'être conduits dans toute la vérité. C'est là la prière que nous t'avons demandée, Père, dans le nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. En tant que chrétien combattant le bon combat de la foi, il ne nous faut jamais oublier, mes amis, que nous avons un ennemi contre nos âmes. Et nous ne devons jamais oublier que cet ennemi, à savoir, Satan cherche constamment à contrefaire ou à annuler la loi de Dieu dans la vie du croyant. Mais Dieu et Jésus savent cela, voyez-vous. Et ils en sont pleinement conscients. Et c'est pour cela qu'ils ont établi quelque chose pour le croyant. Ce que nous nous apprêtons à voir, ce que nous nous apprêtons à découvrir en ce matin, mes amis, est non seulement valable pour la foi de Jésus à l'égard du message de la santé, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, mais également pour la doctrine de Jésus ainsi que sa justice. C'est pour cela que cette partie, comme je vous l'ai dit en introduction, est vraiment importante. Commençons notre parcours, commençons cette étude par la lecture du psaume 119. Rendons-nous dans le psaume 119 et rassurez-vous, nous ne lirons pas tout le psaume 119. Mais nous lirons le verset 142 de ce psaume. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 119 et lisons le verset 142 où il est dit: Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. La justice de Dieu, mes amis, d'après ce que nous lisons dans ce verset, est éternel. Et ce, parce que sa loi est la vérité. Et ce, parce que sa loi n'est que vérité. Maintenant, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, rendons-nous à présent dans l'Évangile selon Jean. Et considérons le chapitre 8 et tout particulièrement le verset 14. Jean chapitre 8 et le verset 14. Jean, l'évangile selon Jean chapitre 8 et au verset 14, où nous lisons que Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véritable, car je sais d'où je suis venu. et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Mes amis, dans ce verset, Jésus déclara vigoureusement que son témoignage est véritable. C'est-à-dire que son témoignage n'est que vérité. Or, rappelez-vous que Jésus est l'image de Dieu. Et que, par conséquent, ce qui provient de Jésus est une image ou est exactement comme ce qui vient du Père. Le terme grec qui a été traduit par témoignage dans ce texte est martyria, lequel signifie ou peut signifier récit, rapport, témoin, mais également témoignage, d'après ce que nous lisons dans la Strong's Concordance au numéro G3141. Et, mes amis, voyez-vous, c'est également martyria que l'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 12 et au verset 17. Rendons-nous maintenant dans Apocalypse, chapitre 12 que nous avons lu avant de commencer ce message. Et au verset 17, où il nous est dit, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le martyria de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ. C'est le même terme que nous avons vu dans Jean 8, verset 14, où Jésus disait que son témoignage est véritable. Son témoignage est vérité. Son témoignage n'est que vérité. C'est le même terme, mes amis. Et voyez-vous, lorsque nous comparons ce texte, à savoir Apocalypse 12, verset 17, avec Apocalypse 14, verset 12, le témoignage de Jésus-Christ semble être une autre expression pour la foi de Jésus. Afin de savoir si tel est le cas, nous devons savoir ce qu'est le témoignage de Jésus. Jésus est sorti de celui qui est l'auteur des lois spirituelles et physiques. Et en raison de cela, mes amis, sa foi et son témoignage sont toujours conformes aux lois de Dieu. En d'autres termes, Dieu emploie quelque chose de véritable pour nous conduire à la vérité. Je souhaite que vous gardiez cela à l'esprit, car cette chose nous aidera par la suite. Rendons-nous maintenant dans Apocalypse, chapitre 19 et au verset 10. Lisons Apocalypse, chapitre 19 et le verset 10, où il nous est dit que « Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » À partir de ce texte, nous savons que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Mais qui sont les frères possédant cet esprit? Rendons-nous dans Apocalypse, chapitre 22, et lisons maintenant les versets 8 et 9. Apocalypse 22, et lisons les versets 8 et 9, où il nous est dit, et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Les frères de Jean qui ont l'esprit de prophétie sont les prophètes, mes amis. C'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous déduisons en comparant deux situations, en comparant une situation qui s'est répétée, qui s'est passée, qui s'est produite deux fois, et où l'ange, la première fois, a dit esprit de prophétie, et après il a dit tes frères, les prophètes. En référence au témoignage de Jésus. Donc, ainsi, l'esprit de prophétie inclut les enseignements des prophètes. Et le témoignage de Jésus est donc le témoignage ou les rapports qu'ont rendus les prophètes. Mais le point vital dont je reprends. Mais le point vital dont il faut se rappeler est que les messages des prophètes ne proviennent pas d'eux-mêmes. En effet, il s'agit des messages de Jésus parce que, bien évidemment, c'est le témoignage de Jésus. Quel est donc l'objectif du témoignage de Jésus? Quel est donc l'objectif de l'esprit de prophétie, si vous préférez? L'apôtre Paul le révéla dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. Et rendons-nous dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et considérons au verset 22 l'objectif de l'esprit de prophétie, d'après ce que l'apôtre Paul déclara. 1 Corinthiens 14, verset 22, où nous lisons que, ainsi, donc, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie est un signe, non pour les incrédules, mais pour les croyants. La prophétie est donnée pour le bien des croyants, c'est-à-dire pour les membres de l'Église de Dieu. Et de plus, mes amis, dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et au verset 28 que je vous invite à prendre, l'apôtre Paul expliqua qu'il s'agit d'un don de Dieu pour son Église. 2 chapitres plutôt, 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 28, l'apôtre Paul déclara, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, en troisième lieu, les docteurs, ensuite, ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Je souhaite que vous considériez la position occupée par ce don, c'est-à-dire celui de prophétie, le prophète. En effet, ce dernier vient juste après les apôtres et il est devant celui d'enseignant. Mes amis, ce don n'est pas rien du tout. Et voyez-vous, en tant qu'enseignant, de la vérité des derniers jours, les pionniers adventistes avaient compris cela. Joseph Bates, dans A Vindication of the Seventh-day Sabbath and the Commandments of God, à la page 221, paragraphe 3, déclara: qu'est-ce que la foi de Jésus? Réponse: le verset 17 du chapitre 12 d'Apocalypse dit que c'est son témoignage. Le verset 10 du chapitre 19 dit que son témoignage est l'esprit de prophétie. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, Matthieu 28, verset 20. Remarquez maintenant que la foi ou le témoignage de Jésus embrasse tous ses enseignements. Dans cette déclaration, le frère Bates présenta l'unité existant entre la foi et le témoignage de Jésus. Et en les présentant, l'inspiration opéra une nuance. En effet, dans Special Testimony to Battle Creek, à la page 6 et au paragraphe 3, il nous est dit que la foi de Jésus et le témoignage de Jésus sont combinés. Ils doivent clairement être présentés au monde. Mais dans la parole de Dieu, les conséquences de la proclamation de ce message nous sont clairement présentées. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ici, dans cette déclaration, mes amis, nous apprenons non seulement que la foi et le témoignage de Jésus sont combinés, mais également qu'ils doivent, donc les deux, être clairement présentés au monde. Ainsi, la foi et le témoignage de Jésus sont deux éléments distincts, lesquels sont toutefois combinés. Mais pourquoi sont-ils combinés? C'est parce qu'ils proviennent de Jésus et que, voyez-vous, Jésus n'est pas à diviser. Considérons à présent comment ces deux éléments, la foi et le témoignage de Jésus, œuvrent ensemble. Rappelez-vous que dans la première partie de cette série d'études, nous avons vu que la foi de Jésus est l'Évangile. Dans son livre, The Spirit of God, le pasteur Joseph Harvey Wagner déclara à la page 138 et au paragraphe 2 que la foi de Jésus couvre l'ensemble du système de remédiation, l'Évangile, et inclut toutes les doctrines et les devoirs particuliers de l'Évangile. Le témoignage de Jésus est plus restreint. Il est une part du système évangélique. Il est l'esprit de prophétie. Il appartient aux dons qui furent établis dans l'Église pour l'accomplissement de l'œuvre de l'Évangile. Et comme les commandements de Dieu ne sont pas observés lorsque l'un d'entre eux est violé, car celui qui viole ne serait-ce qu'un précepte de la loi, ne garde pas la loi, de même, la foi de Jésus, l'Évangile, n'est pas honorée lorsqu'une de ses parties est déshonorée. Et par-dessus tout, nous devrions honorer les dons de l'Esprit de Dieu, se rappelant l'avertissement de notre Sauveur, à savoir qu'une parole prononcée contre l'Esprit pourrait nous placer hors d'atteinte du pardon. Et l'occasion lors de laquelle il nous donna cet avertissement montre qu'en parlant contre ses œuvres, il parlait contre le Saint-Esprit. Ainsi, mes amis, le témoignage de Jésus doit aider l'œuvre de l'Évangile. c'est-à-dire l'œuvre de la foi de Jésus. Et plus loin, dans son livre, il donna un exemple de comment ce don édifie l'Église, et ce, à la page 139 et au paragraphe 2. Les adventistes du septième jour ont, depuis leur commencement, maintenu ces deux idées impopulaires que sont l'observation de tous les commandements de Dieu et de toute la foi de Jésus, sans rejeter l'esprit de prophétie. Par ce don, ils ont été préservés de plusieurs maux et de plusieurs erreurs. Aussi, ils lui sont redevables pour cet état d'union extraordinaire qui les a jusqu'ici caractérisés. Ce don a été le grand outil de leur prospérité merveilleuse. Ils croient pleinement dans les dons de l'Esprit comme le moyen désigné pour perfectionner l'Église, pour amener à l'unité de la foi et pour préserver l'unité de l'Esprit. Ce que le pasteur Wagner écrivit ici est une preuve, mes amis, de ce que l'apôtre Paul déclara en 1 Corinthiens 14. C'est-à-dire que la prophétie, ainsi que l'Esprit qui la révèle, sert et édifie les croyants. C'est-à-dire l'Église, bien évidemment. Et voyez-vous, mes amis, sans ce don, des maux et des erreurs auraient détruit l'œuvre de Dieu dès son commencement. Mais alors, comment devrions-nous considérer un don si important? L'inspiration déclara que un grand nombre prépareront quelques tests qui ne sont pas donnés dans la parole de Dieu. Nous avons notre test dans la Bible, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Cela est le véritable test. Mais beaucoup d'autres tests s'élèveront parmi le peuple. Ils viendront en nombre, jaillissant de celui-ci et de celui-là. Il y aura un soulèvement continuel de choses étranges pour détourner l'attention du véritable test de Dieu. Mes amis, comprenez-vous pourquoi nous sommes toujours en train de parler de la foi de Jésus? C'est parce que la foi de Jésus fait partie du test de Dieu dans la Bible. Les commandements de Dieu ainsi que la foi et le témoignage de Jésus, mes amis, font partie du test du ciel. Ils font partie de ce des choses. Ils font partie de ce test par lequel le ciel a testé, est en train de tester et continuera à tester tous les croyants. Les membres de l'Église, du reste, garde les commandements de Dieu, ainsi que la foi de Jésus, mais également, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 12, verset 17, le témoignage de Jésus. Et il garde ces choses parce que c'est ce qui leur a été demandé en Ésaïe, chapitre 8. Et je vous invite à suivre avec moi dans vos Bibles la lecture que nous ferons dans la King James Version du chapitre 8 d'Ésaïe, et tout particulièrement du verset 12 jusqu'au verset 20. Ne dites pas une confédération de tout ce dont ce peuple dira, une confédération. Ne craignez pas leurs craintes et ne soyez pas effrayés. Sanctifiez le Seigneur des armées, lui-même, et qu'il soit votre crainte et votre frayeur. Et il sera pour un sanctuaire, mais pour une pierre d'achoppement et pour un rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël pour un piège et pour un lacet aux habitants de Jérusalem. Et beaucoup d'entre eux trébucheront et tomberont et seront brisés et enlacés et pris. Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Et je m'attendrai au Seigneur qui cache sa face à la maison de Jacob. Et je le rechercherai. Voici, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur des armées qui habite en la montagne de Sion. Et quand ils vous diront, consultez les évocateurs d'esprit et les sorciers qui chuchotent et qui marmonnent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants, s'adressera-t-il aux morts? À la loi et au témoignage. S'il ne parle pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a point de lumière en eux. Mes amis, c'est parce qu'ils s'attachèrent aux enseignements des hommes plutôt qu'aux rapports que faisaient les prophètes de Dieu que les Juifs rejetèrent Jésus comme étant le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et voyez-vous, cela ne sera pas différent pour nous si nous refusons d'accepter cette aide de Dieu pour la foi que Jésus souhaite voir en nous. Se préparer pour la venue du Christ signifie également lier le témoignage, c'est-à-dire lier l'esprit de prophétie parmi les disciples, et ce afin qu'ils puissent rester des disciples et ne pas apostasier. Mais si le témoignage, si l'esprit de prophétie n'est pas lié, n'est pas une chose qui est liée pour nous, une chose qui est fermement établie. Voilà ce qui arrivera, mes amis. La toute dernière tromperie de Satan sera de rendre sans effet les témoignages de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Satan œuvrera ingénieusement, de différentes manières et par différents agents, afin de bouleverser la confiance du reste du peuple de Dieu dans le véritable témoignage. Il amènera des visions fallacieuses en vue d'induire en erreur, et il mélangera le faux avec le vrai afin de dégoûter le peuple, si bien qu'ils considéreront tout ce qui porte le nom de vision comme une espèce de fanatisme. Mais les âmes honnêtes, en opposant le faux avec le vrai, seront rendus capables de les distinguer. Il nous a été dit, dans cette déclaration que nous trouvons dans Selected Messages, volume 2, à la page 78, paragraphe 2, que la toute dernière tromperie de Satan sera de rendre sans effet les témoignages de l'Esprit de Dieu, mes amis. Lorsque nous considérons la déviation des membres, et je parle en général, la déviation des membres, mes amis, de l'Église adventiste du septième jour, et ce parce que la dénomination elle-même est en déviation, et même celle de certaines personnes ayant une connaissance correcte de la divinité, une connaissance similaire à celle des premiers adventistes, mes amis. Une connaissance similaire à celle des premiers chrétiens. Le point commun est que ces personnes ont perdu, dans une certaine mesure, leur confiance dans l'esprit de prophétie. Ma prière pour vous et moi, mes amis, est que le témoignage de Jésus, est que l'esprit de prophétie qui a été manifesté, et j'en suis convaincu, dans le ministère d'Ellen G. White, ainsi que celui qui a été manifesté dans le ministère de Jérémie, Ézéchiel et tous les autres. Ok? Mais je vais parler ici notamment de celui qui a été manifesté dans le ministère de l'NG White, mes amis. Ma prière pour vous et pour moi est que le témoignage, l'esprit de prophétie, puisse être une chose liée pour nous. Que cela puisse être fermement établi, que nous puissions le retenir, le considérer. Que nous puissions le considérer, le retenir, de sorte que nous ne puissions pas être emportés par des vents de doctrine de Satan. Puissions-nous lier le témoignage afin que la saine doctrine, afin que la justice de Dieu, ainsi que la santé, une bonne santé, puisse être une part de notre vie et de notre ministère, mes amis. Croyons en Dieu et en Jésus, comme cela est écrit dans Jean 14 et au verset 1, où nous lisons « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Mes amis, croyez dans les commandements de Jésus et dans le témoignage de Jésus-Christ. Car, voyez-vous, seuls ceux qui croiront dans le témoignage de Jésus-Christ pourront avoir la foi parfaite de Jésus-Christ. Mes amis, croyons en Dieu et en Jésus comme cela est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20 et au verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20 et au verset 20, où, dans la dernière partie, nous lisons que « Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. » Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce message. Merci car tu désires que l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, soit lié pour nous. Tu désires que cela soit fermement établi et que nous puissions le considérer comme étant une chose véritable, nous conduisant à la vérité. Merci, tendre Père Céleste, de bien vouloir avoir une compréhension profonde de la foi de Jésus et du rapport qu'il y a entre la foi de Jésus et le témoignage. Car nous avons vu que si nous n'avons pas le témoignage de Jésus, eh bien nous ne serons pas protégés et encouragés, aidés pour avoir cette foi parfaite de Jésus dans notre vie. Alors, Seigneur, merci de bien vouloir nous aider et sur ce chemin sur lequel nous marchons, ce chemin qui est étroit, qui est resserré, mais ô combien est merveilleux l'endroit où il nous amène. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Nous t'avons prié dans le nom et par les mérites de Jésus, Père. Amen.